Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, ce devait être la rentrée scolaire aujourd'hui dans l'Oise, mais 28 000 élèves resteront à la maison.
83 écoles fermées, une vingtaine de collèges et lycées portes closes pour deux semaines par mesure de précaution. Après le premier cas mortel lié au coronavirus, un enseignant de Crépy en Valois décédé la semaine dernière. Le maire de la commune est lui-même atteint par le virus. Il l'a annoncé sur sa page Facebook, vous l'avez entendu à 7h30 sur RTL. Bonjour Thomas Dulin.
Bonjour.
Vous êtes devant la gare de Crépy-en-Valois. Il y a un peu moins de monde ce matin, vous me disiez, mais malgré toutes les mesures de précaution, il y a toujours des gens qui arrivent et qui partent. Ça circule.
Oui, c'est un agent SNCF qui me l'a confirmé. Moins de monde que d'habitude ce matin. Jimmy, qui arrive du nord de l'Oise, se serait bien passé de sa journée de travail ici à Crépy. Étonné de voir que les mesures sanitaires ne sont pas appliquées.
Je trouve que ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas beaucoup plus de personnes qui se protègent que ça, comme on a vu en Asie, quoi. Ça me paraît un peu étrange, quoi.
Quand vous voyez monter tous les gens dans le train pour aller à Paris, vous vous dites pas c'est autant de petits coronavirus qui montent dans le train?
Ouais, si, un petit peu. Je pense que les gens, ils sont peut-être pas encore assez au courant des effets que ça peut produire au niveau du virus, de ce que ça peut être, quoi, en fin de compte.
Jimmy descend du train. Emmanuel, un habitant de Crépy, lui, monte dedans pour aller à Paris, plutôt détendu.
Je fais pas la bise aux gens dans le train. Donc je vous rassure. Après, s'il y a une psychose sur Paris, tant pis pour les autres. Hein. Surtout qu'en plus, ça ne s'arrête pas à Crépy. Hein. Si jamais le virus est à Crépy-en-Valois, il y a de grandes chances quand même qu'il soit déjà aussi à Paris. Donc bon, il faut arrêter la psychose sur la ville de départ. C'est normal que les gens se posent des questions. Mais de là, arrêter de vivre pour ça, non.
Bon, Jimmy l'avoue, il va tout de même... Emmanuel l'avoue, il va tout de même acheter un masque chirurgical dès qu'il en aura l'occasion.
Merci Thomas Dulin, en direct de la gare de Crépy en Valois, dans l'Oise, en France, donc l'un des trois pays les plus touchés d'Europe avec l'Italie et l'Allemagne. Les mesures de précaution se multiplient. On l'a appris cette nuit, le salon du livre est annulé. Il devait se dérouler du 20 au 23 mars à Paris, porte de Versailles. L'impact sur la croissance sera beaucoup plus significatif que 0,1 point, dit à l'instant le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui affirme que le gouvernement débloquera ce qu'il faudra pour aider les entreprises françaises. Bonjour Odile Pouget.
Bonjour.
On va rappeler des choses basiques avec vous ce matin. Ma pharmacie est en rupture de stock de gel hydroalcoolique. Qu'est-ce que je fais?
Alors on se lave les mains avec de l'eau et du savon plusieurs fois par jour. Lavage minutieux en n'oubliant pas les interstices et en remontant sur les poignets. À noter que l'Organisation Mondiale de la Santé a mis en ligne une recette pour fabriquer soi-même son gel hydroalcoolique si l'on préfère utiliser cette solution. Mais de l'eau et du savon, ça va très bien. On évite de se toucher le nez, la bouche, porte d'entrée du virus. Un réflexe à oublier. Des études montrent qu'on porte les mains au visage une fois par minute.
On rappelle que c'est un virus qui se transmet donc par le contact, par le toucher.
Oui, le virus ne flotte pas dans l'air. Il faut un contact étroit, un face-à-face direct à un mètre avec une personne infectée qui tousse et éternue sur vous. Contamination possible également avec des objets, le téléphone, la poignée de porte, la barre d'appui dans le métro. On sait que sur ce type de surface inerte, le coronavirus peut survivre au moins 3 heures.
Enfin, quelle est la dangerosité de ce virus?
Sur 100 personnes infectées, 80 ont des formes très mineures, 15 ont des formes un peu plus sévères et doivent être hospitalisées, 5 vont en réanimation. Il n'y a pas de forme grave chez les enfants. Le taux de mortalité est de 1,2%, c'est 10 fois plus que la grippe, mais 10 fois moins que le SRAS. Et les gens qui y succombent sont en grande majorité des personnes de plus de 60 ans, des personnes fragiles avec des problèmes de santé, hypertension, problèmes cardiovasculaires, diabète ou un système immunitaire défaillant.
Merci pour ces rappels très clairs. Odile Pouget.
Nos hôpitaux sont-ils armés pour affronter la propagation? On en posera la question à 8h20 à Martin Hirsch, qui est le président de l'APHP.
Dans le monde, la barre des 3000 morts a été franchie cette nuit. Les États-Unis viennent d'enregistrer un deuxième décès, un septuagénaire de la région de Seattle. On signale également un premier cas à New York.
RTL Matin, 8h04.
Dans l'actualité également, ces cris de colère contre l'Europe en Grèce.
Les Grecs, exaspérés par l'afflux de migrants, on assiste depuis plusieurs jours maintenant à des scènes d'une rare violence. Encore hier soir, un camp de migrants a été incendié. Un ancien camp de migrants a été incendié hier soir à Lesbos. Les habitants se retrouvent en première ligne depuis que la Turquie a décidé de ne plus retenir les milliers de réfugiés qui s'y trouvent. Écoutez ce reportage à la frontière entre la Grèce et la Turquie de notre envoyé spécial Alexia Kefalas.
Toute la nuit, des centaines de migrants et réfugiés bloqués à ce poste frontière fermé ont tenté d'escalader le mur de barbelés. D'autres ont essayé de se réchauffer avec des feux de camp pour tenter leur chance. Ce matin, Youssouf, un Afghan de la quarantaine, n'a pas fermé l'œil.
Les Turcs nous ont dit qu'on pouvait aller en Europe maintenant, mais ils nous ont menti.
Quelques 4000 policiers et soldats armés de drones et surtout de gaz lacrymogènes sont déployés le long des 212 km de frontières terrestres. Thanasis, un agriculteur de la région, craint de revivre le cauchemar de 2015 où plus d'un million de migrants et réfugiés avaient traversé le pays.
On a tout fait pour aider les Syriens il y a 5 ans, mais là c'est à l'Europe d'agir. Nous on n'a pas fait la guerre. Vous pensez que notre armée peut bloquer les frontières encore longtemps ?
La Grèce est redevenue le premier point d'entrée en Europe pour les migrants et réfugiés. Dans les îles, ils sont 40 000 à s'entasser dans des conditions insalubres pour 6 200 places. Des sympathisants d'extrême droite de Lesbos ont tenté de bloquer hier l'arrivée d'une barque de 60 personnes dont nombre d'enfants, alors que d'autres ont manifesté devant le centre d'accueil le plus grand d'Europe. Les autorités locales craignent une escalade ces prochains jours.
Reportage pour RTL d'Alexia Kefalas. Retour aux urnes pour les Israéliens. Ils ont l'habitude. Ce sont les troisièmes élections législatives en moins d'un an. Benjamin Netanyahou, malgré ses nombreuses inculpations, notamment pour corruption, est toujours au coude à coude dans les sondages avec son rival Benny Gantz. Aux États-Unis, Pete Buttigieg jette l'éponge. Le candidat aux primaires démocrates, premier candidat ouvertement homosexuel aux États-Unis, avait pourtant créé la surprise en emportant le caucus de l'Iowa, mais son trop faible score de samedi en Caroline du Sud l'empêche de continuer. Selon lui, il dit ne pas vouloir créer la division.
Pete Buttigieg, qui avait combattu en Afghanistan sous les drapeaux américains.
Et cette guerre-là est officiellement terminée, puisqu'un accord a été signé ce week-end entre Washington et les talibans. Les troupes américaines engagées après le 11 septembre 2001 vont se retirer. Elles avaient été envoyées pour empêcher la préparation de nouveaux attentats et renverser les talibans.
Alors, à quoi ont servi ces 18 années de guerre ? Eh bien, c'est la question du 8h.
Et c'est avec vous en direct, Philippe Corbet, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Les Américains ont-ils atteint leurs objectifs ?
Alors non, Ben Laden est mort, mais pas Al-Qaïda, et les talibans sont si solides qu'ils ont pu forcer la première puissance du monde à négocier. Lorsque les Américains ont envahi l'Afghanistan à la tête d'une coalition, ils n'imaginaient pas qu'ils y seraient encore près de deux décennies plus tard, que ce serait un nouveau Vietnam. C'est la plus longue guerre de l'histoire américaine. Il y a des militaires déployés là-bas qui n'étaient pas nés le 11 septembre. Plus de 110 000 morts afghans. Côté américain, plus de 2 400 militaires tués, plus de 20 000 blessés, beaucoup grièvement, sans compter tous ceux qui ne se sont jamais remis de cette guerre qu'ils savaient perdue et qui aura coûté à Washington 2000 milliards de dollars.
Le retrait américain ouvre-t-il la voie à la paix en Afghanistan ?
Après le retrait des 12 000 militaires américains d'ici 14 mois, rien ne dit que les talibans ne vont pas renverser les fragiles institutions à Kaboul, encore plus fragiles si Washington coupe les vivres. Des chefs d'Al-Qaïda qui se cachent au Pakistan pourraient revenir. Daesh profiter du vide, comme après le retrait d'Irak. Et que va-t-il arriver aux femmes qui ont retrouvé un peu de liberté depuis que les talibans ont été chassés du pouvoir ?
La question du 8h avec ce matin, Philippe Corbet. Dans un court instant, de nouvelles plaintes contre le lait infantile Galia.
RTL, il est
8h08. RTL Matin.
RTL, 8h09, la suite du journal. Jérôme Florin, Yves Calvi.
Danone annonce avoir lancé des investigations alors que les témoignages se multiplient contre son lait infantile Galia.
Plusieurs familles, au moins 9 d'après les infos de RTL, affirment avoir retrouvé des vers ou des larves dans les boîtes de lait en poudre. 3 d'entre elles ont déjà porté plainte. 2 autres doivent le faire ce lundi, comme Sarah, qui habite dans le Var et qui a trouvé un vers le 4 janvier dernier.
On se pose quand même beaucoup de questions. On se dit comment ça se fait qu'il y ait ça, quoi. Puis surtout qu'ils nous rejettent la faute sur nous en disant que ça vient soit de chez nous ou soit de l'extérieur, donc de la pharmacie ou de chez nous. Mais quand c'est neuf, en fait, ça peut pas, y a rien qui peut passer à travers. Donc c'est impossible. Et quand ils disent que ça peut venir de nous, ça voudrait dire en fait que nous, les familles, ça veut dire qu'on est des personnes sales au final. C'est pas possible.
Un propos recueilli par Émilie Bojard. Et donc si Danone lance des investigations en interne, les produits n'ont pas été rappelés. Après le local de campagne d'Edouard Philippe au Havre, c'est celui de Gérald Darmanin à Tourcoing qui a été visé par des tags. C'est le fait de manifestants opposés à l'usage du 49-3. Ce 49-3 est un choc, dit ce matin sur RTL Ségolène Royal, qui dénonce la brutalisation de la société française.
RTL Municipal 2020.
Vous ne pourrez plus les rater désormais. Les visages des candidats s'affichent près des écoles et des mairies.
Coup d'envoi ce lundi de la campagne officielle. Il y a 1 million de candidats partout en France. On vote les 15 et 22 mars. Notre coup de projecteur ce matin sur Grenoble, avec le seul maire écolo d'une grande ville face à un ancien ministre passé par la case prison. Reportage de Serge Puyot.
Dans les rues de Grenoble, certains habitants changent de trottoir lorsqu'ils voient arriver le candidat Alain Carignon.
Il a volé quand même, détourné de l'argent qui n'était pas le sien. D'ailleurs, on l'appelle le corrompu. Il devrait se faire oublier, ça.
Mais l'ex-maire de Grenoble, à la tête d'une liste de la société civile, a aussi des soutiens. Cette grenobloise se précipite vers lui pour l'embrasser.
Comment ça va ?
Super. Il a tellement bien géré Grenoble pendant deux mandats que nous avons tous la nostalgie de ce temps-là.
Bravo.
Du temps de M. Carignan, c'était propre, c'était la sécurité.
Alors, on va gagner ?
Oui, bien sûr.
Bon, ben voilà.
Je suis un être positif. Le temps des attaques est, je pense, derrière nous. Aujourd'hui, c'est le temps des projets.
Éric Piolle, le maire écologiste qui souhaite rempiler, met en avant son bilan et sa lutte contre la pollution et le trafic automobile.
Les voitures, évidemment, ça a été pendant longtemps un élément de liberté dans la tête des gens. Maintenant, on se rend compte que nous avons 48 000 morts par an en France du fait de la pollution de l'air. Donc c'est vrai qu'on rééquilibre des trottoirs plus larges pour les piétons, 44 km et 4 lignes de chronovélo. C'est des lignes rapides pour les vélos qui nous a conduit à cette première place des villes cyclistes.
Un bilan que conteste Émilie Chalas, la chef de file d'En Marche, avec sa liste Un nouveau regard sur Grenoble.
Sur l'écologie, les résultats sont là. A-t-il créé des espaces verts nouveaux à Grenoble ? Non. A-t-il réduit la pollution atmosphérique ? Non. A-t-il réduit les embouteillages à Grenoble ? Non.
Émilie Chalas, qui propose de planter 50 000 arbres. À gauche, Olivier Noblecourt, 42 ans, rêve lui aussi de faire chuter le maire sortant avec sa liste Grenoble Nouvelle Ère.
Il y a trois listes de gauche aujourd'hui qui contestent le bilan d'Éric Piolle, qui est un bilan mauvais au plan social. Un sentiment de colère parce que finalement la vie quotidienne s'est dégradée, parce que les questions de sécurité ne sont pas prises en compte.
Un récent sondage place Éric Piolle en tête avec 36% des voix, devant Alain Carignon 20%, Olivier Noblecourt 19% et Émilie Chalas 16%. Le maire écologiste part donc favori, mais une surprise est toujours possible.
Reportage signé Serge Puyot. Je vous donne les trois autres listes en lice à Grenoble. Mieux vivre à Grenoble avec Mireille Dornano. La commune est à nous avec Bruno Delescure et Lutte ouvrière qui présente Catherine Brun en tête de liste. En football, Lyon finit sa semaine en beauté en remportant le derby contre Saint-Etienne 2-0. Lyon remonte à la 5e place du classement en Ligue 1. Un partout entre Bordeaux et Nice. Lille a battu Nantes 1-0.
L'histoire du jour.
Elle avait pleuré la semaine dernière sur scène à cause de sa blessure au genou. Madonna était contrainte d'annuler son concert hier soir au Grand Rex à Paris. Elle souffre d'une déchirure des ligaments. Elle doit se produire dans cette salle jusqu'au 11 mars. Et on ne sait toujours pas ce matin si elle sera sur scène ce soir. La déchirure des ligaments, c'était plutôt Maradona hein, jusqu'à présent.
J'ai bien compris, mais écoutez, elle danse quand même, Madonna, donc c'est douloureux. Je ne vous trouve pas très bienveillant.
Si, non, mais c'est
ah bon,
très bien sûr.